Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, il est 9h15 et nous allons retrouver Arnaud Boutéon pour son émission Athlète du Christ. Arnaud qui est en direct de nos studios à Paris. Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour Gaëtan, bonjour chers amis de Radio Maria. Nous sommes en pleine Coupe du Monde et donc je pense que nos communautés, nos familles sont mobilisées par ce grand événement de joie. Alors il y a eu un grand débat, devons-nous regarder, boycotter cette Coupe du Monde? Même parfois au sein de nos communautés, eh bien, on a pu un peu s'étriper. Et moi, peut-être que je vais choquer quelques auditeurs, mais je pense que... un peu dans l'esprit de tout ce que nous invite à vivre le pape François, nous ne devons pas avoir peur de rencontrer d'autres cultures, de nous ouvrir. Et quand on connaît bien le fonctionnement du football, de la FIFA, alors on sait qu'il y a des excès, on sait qu'il y a des structures de corruption, mais ça reste fondamentalement sur le terrain de jeu et dans les tribunes un vrai moyen de partager une liesse, de partager une joie autour des matchs, de faire de belles rencontres, de révéler à nouveau le cœur d'enfant dans sa simplicité. Et puis, on retrouve cette joie sportive dont on parle beaucoup sur les ondes de Radio Maria. C'est cette fierté d'appartenance, cette joie de vivre par procuration, un événement qui mobilise toute notre personne, notre cœur, notre âme, notre esprit. Et puis, c'est de vivre aussi une forme de dramaturgie, une tragédie humaine, ou de suivre une épopée où des artistes que sont les footballeurs qui manient le ballon de façon virtuose, eh bien, c'est ces personnes-là qui sont un peu enfermées dans une vie communautaire, alors qu'ils peuvent tous se permettre, ils sont enfermés dans une vie communautaire autour d'un entraîneur qui va réussir à parler à leur cœur, à mobiliser leur esprit de corps. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de cet esprit de corps, cet esprit d'équipe. Eh bien, voyez, moi, je pense qu'il faut regarder avec beaucoup de bienveillance et d'enthousiasme cette épopée, cette aventure humaine que représente la Coupe du Monde, parce que ça nous fait réfléchir sur notre incarnation, sur notre fierté d'appartenir à une nation avec ses vertus, avec son histoire, avec son niveau de jeu, avec son style de jeu aussi. C'est intéressant, le style de jeu des Brésiliens n'est pas le même que le style de jeu des Anglais. Et puis il y a aussi cette joie de vibrer aux exploits de nos joueurs. Et hier, on a tous vibré devant le record d'Olivier Giroud, qui est le meilleur buteur de l'équipe de France dans l'histoire. Olivier Giroud qui ne cache pas sa foi, et puis de voir les exploits de Mbappé qui lui aussi a confessé. Alors on en parle assez peu, mais un jour interviewé dans une école dans le cadre d'une émission de télé, eh bien il a évoqué le fait qu'il était chrétien, qu'il n'avait pas l'habitude de façon décomplexée de confesser sa foi, d'exprimer sur le terrain des gestes de ferveur, mais Mbappé a bien dit qu'il était chrétien, et on a vu qu'il avait envoyé un message pour prier pour Pelé, qui est un des plus grands footballeurs. Il a bien mis sur les réseaux sociaux, prions pour un peu le roi du football qui s'appelle Pelé. Donc voilà, on va parler ensemble de l'esprit d'équipe dans nos communautés paroissiales, dans notre église, et puis qu'est-ce que ça nous inspire, comment on travaille cet esprit d'équipe, comment on le reçoit, vers quoi mène l'équipe. Mais avant tout, celui qui est le capitaine de l'équipe, celui qui est l'entraîneur de l'équipe, celui qui est le chemin de l'équipe, eh bien, c'est le Seigneur. Et nous allons commencer par rendre hommage au Seigneur en écoutant « À toi l'honneur, jeunesse en mission », comme pour sortir de notre vestiaire après l'échauffement. Voilà. On se remet au centre du jeu autour du Seigneur et puis écoutons « À toi l'honneur ». Je pense que Giroud, avant les matchs, après les matchs, tout vient de Dieu, tout revient à Dieu. C'est certainement ce qui le guide dans l'épopée qu'il est en train de vivre et de nous faire vivre sur les terrains de foot.
Arnaud Boutéon, c'est à vous.
Je suis là. Vous avez eu la joie d'avoir une version karaoké d'À toi l'honneur. Donc, je suis sûr que, chers auditeurs de Radio Maria, vous avez chanté de tout votre cœur sur cette belle musique pour rentrer dans cet esprit déjà de communauté, cet esprit communautaire, cet esprit de corps sur lequel nous allons échanger aujourd'hui dans cette émission Athlète du Christ autour du sport. Alors, une petite précision, je ne fais pas partie des personnes qui boycottent cette Coupe du Monde, je suis désolé de vous l'apprendre. Je crois, à l'instar de Saint Paul, que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous ne devons pas nier les réalités tragiques qui ont précédé à l'organisation de cette Coupe du Monde. Mais notre monde est aussi une tragédie. De la même façon qu'il n'y a pas de guerre propre, malheureusement, tout ce type de chantier de mobilisation laisse des traces. Et nous en faisons mémoire, mais pour autant, je crois qu'il est important de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de ne pas nous rétracter, de ne pas nous figer dans des postures de moralisateurs. Et aujourd'hui, cette Coupe du Monde est une réalité. Cette Coupe du Monde met en scène des artistes que sont de grands champions. Et il est important, il y a eu 20 000 journalistes qui sont sur place. La culture de la rencontre fait que des lignes bougent, les journalistes ont vu des choses, il y a de belles choses, il y a des choses qui sont moins belles, et autour de cette notion d'hospitalité, le fait d'accueillir le monde, le fait que le monde nous dise certaines choses, je suis sûr que des choses vont bouger au Qatar, comme elles peuvent bouger en Arabie Saoudite, comme elles bougent en Iran. On a vu aujourd'hui que les gardiens du temple ont mis un terme à cette police des mœurs. Donc je crois qu'à travers le football, dans cette diplomatie sportive qui se fait pas sans compromission aussi, il y a des choses qui bougent et le pape François l'a compris. Alors peut-être que vous ne me comprendrez pas, mais malheureusement, difficilement, c'est la règle de vie du monde. Voilà, rien ne se fait sans difficulté, rien ne se fait sans des formes de compromission sur la scène diplomatique, évidemment. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aussi appréhender cette Coupe du Monde. On en verra les fruits. Il faut rester ferme dans des convictions, mais il faut aussi faire ce petit travail aussi de décentrement, d'ouverture, pour comprendre aussi d'où viennent les autres cultures, quelles sont les traditions des différentes nations. Et tout ça se retrouve sur le terrain de jeu et c'est quelque chose de très intéressant. Quelle est notre équipe? Quelle est notre communauté? Et alors on peut toujours discerner sur le fait communautaire. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le sport est rarement une aventure individuelle. L'esprit de corps évoque vraiment cette volonté collective émise par ce rassemblement de volonté individuelle. Pensons à tous ces joueurs de l'équipe de France qui ont une histoire, qui ont des égos et qui aujourd'hui s'unissent pour ne former finalement qu'un seul corps tendu vers un seul objectif, qui est la victoire, finale. Cette pratique d'un sport, alors un sport à un niveau amateur, mais là on le voit à travers la Coupe du Monde de foot, à un niveau très professionnel et ultra professionnel, on est vraiment dans le top du top. Le sport et le football est le sport le plus populaire au monde, où il y a qui brassent des sommes d'argent colossales, qui viennent surtout des droits télévisés. Et pour autant, dans les vestiaires, on l'a vu avec les scènes de liesse de l'équipe de France, il y a toujours cet esprit d'enfant, cet esprit de fraternité, de solidarité qui va s'exprimer. Le sport n'est jamais une aventure solitaire. Pensons à l'enfant qui va faire une compétition d'escrime, de judo, il aura toujours un entraîneur, il aura toujours des parents qui seront là pour l'entourer, pour le mettre dans les meilleures dispositions physiques, mentales, éducatives. Et il y a un moment où il y a cette solidarité qui va venir s'exprimer, et surtout, et j'insiste énormément là-dessus, cette confiance. L'unité d'un groupe provient fondamentalement de la confiance entre l'enseignant et l'enseigné, de la confiance que les joueurs vont avoir les uns envers les autres, et de la confiance sur l'effort aussi, sur l'assaise que les uns et les autres vont fournir, non pas pour eux-mêmes, certainement un peu pour eux-mêmes, mais aussi pour que le corps dans son ensemble grandisse. J'aime énormément cette équation 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que nous ne sommes pas arithmétiquement dans une équipe, dans une communauté, dans une famille, uniquement la somme de nos individualités, mais il y a un moment donné, alors l'Esprit Saint nous accompagne, il y a un moment donné, dans un esprit de corps, il y a une personne supplémentaire qui s'invite. Alors l'Esprit Saint est cette personne, je crois que dans la spiritualité de la communion, c'est ce que nous vivons dans des projets, dans des initiatives que nous menons. Mais il y a aussi ce petit plus qui fait qu'à un moment donné, chacun va oublier une part d'ego, une part d'ambition personnelle pour s'aligner, s'ajuster sur l'ambition collective, sur l'objectif collectif. Ce que fait aujourd'hui Didier Deschamps avec l'équipe de France de football, alors vous savez que je fais toujours des parallèles souvent entre le monde sportif et le monde ecclésial, pensons à la figure d'un évêque qui pourrait faire la même chose, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble des talents, il met ses talents chacun à leur place, il expérimente parfois, on l'a vu avec le fameux match qu'on appelle le match des coiffeurs, le match des remplaçants, il expérimente aussi des nouveaux dispositifs. Mais fondamentalement, quelle est la mission de Didier Deschamps? La mission de Didier Deschamps, elle est réellement d'élire, de bénir et d'envoyer. Un entraîneur ne rentre pas sur le terrain. Un entraîneur va choisir le meilleur joueur avec son histoire, avec ses dispositions mentales. On voit aujourd'hui dans l'équipe de France qu'un joueur comme Pavard est un peu en fébrilité psychologique, eh bien, il l'épargne, il essaye un peu de le rebooster, mais en tout cas, il le prive de temps de jeu, ce qui est douloureux, mais c'est pour un bien supérieur aussi, pour que d'autres puissent jouer. Et donc, il va un peu corriger, il va ajuster, il va nommer, et puis l'entraîneur va vivre par procuration, il va ajuster des choses dans le dispositif, et puis il va bénir pour que ses joueurs soient les meilleurs possibles. Et on sent, on a eu une profession de foi que je vous invite à lire, assez bluffante de Griezmann, qui est un peu un chef d'orchestre. Griezmann est un petit bonhomme, il n'est pas très grand. Il court partout sur le terrain, il a des replis défensifs, il se sacrifie énormément. Et Griezmann a dit hier qu'il jouait beaucoup pour remercier Didier Deschamps. Il y a une relation de gratitude, de respect entre l'entraîneur et le joueur. Et pensons à aujourd'hui, avec l'état un peu de difficulté que traverse l'Église, à nos équipes ecclésiales. Où en sont-elles? Est-ce que l'entraîneur, qui peut être l'évêque, qui peut être le supérieur de communauté, qui peut être le berger d'une communauté, est en surplomb, loin de ses joueurs? Est-ce qu'il est uniquement comme quelqu'un qui déplace des pions, qui corrige, qui sanctionne, ou est-ce qu'il est au milieu de ses joueurs, avec une juste distance, parce qu'il est important aussi que dans un groupe, les joueurs se responsabilisent, s'autonomisent. Avant les matchs, ce sont les joueurs eux-mêmes, entre eux, les leaders, qui vont donner les bons messages pour mobiliser l'équipe. Il y a même des entraîneurs qui ne rentraient pas dans les vestiaires. Un entraîneur de rugby qui s'appelait Guy Noves ne rentrait pas dans les vestiaires. Il disait c'est un peu le sanctuaire des joueurs. Je fais tout le travail en amont et à un moment donné, je les laisse eux-mêmes décider. Comme dans comme au moment d'un mariage ou un moment où le père de famille finalement il conduit sa fille à l'hôtel et puis c'est fini. C'est-à-dire qu'il confie sa fille à quelqu'un d'autre et il comprend qu'il doit s'effacer pour une autre aventure. Et on pense à cette phrase de Saint Jean-Baptiste, il est bon que je diminue pour qu'il grandisse. Voilà quel peut être un peu ce rôle de l'entraîneur. Mais au préalable, l'entraîneur est quelqu'un qui acquiert cette forme d'autorité avant tout par son exemplarité et sa bonté. Et puis c'est quelqu'un qui va diffuser fondamentalement de la confiance. On ne peut pas se battre, on ne peut pas se consommer, on ne peut pas se consumer dans son travail, dans sa vie pastorale, dans sa vie sportive, si on n'a pas confiance dans l'entraîneur. Je crois qu'il est très 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 important, et je le dis en pensant aussi aux difficultés que traverse notre Église, de penser à ça, et je ne sais pas si des évêques vont m'écouter, il faut que les personnes qui travaillent avec nous, pour nous, embarquer dans cette aventure, dans cette épopée missionnaire dans l'Église, épopée sportive sur les terrains de sport, il faut que les personnes aient confiance. Et cette confiance, elle ne se décrète pas d'autorité en montrant les galons. Cette confiance, on voit les chefs, même dans les chefs de guerre les plus respectés, c'est parce qu'ils ont mouillé le maillot, ils ont été au feu. Ils ont des cicatrices. Et aujourd'hui, le palmarès d'un Didier Deschamps, j'allais dire, en impose. Est-ce que les évêques ont mouillé le maillot de ce travail missionnaire? Est-ce qu'ils ont dormi avec des jeunes qui ont fait des pèlerinages? Voilà, est-ce qu'ils sont là à sentir réellement l'odeur des brebis? Et beaucoup d'évêques, dans leur visite pastorale, restent 2-3 jours dans les paroisses. Ça, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Ce n'est pas uniquement des visites en surplomb où l'église est pleine et on repart avec 2-3 petits mots, souvent un peu lénifiants. Non, passer du temps avec les uns, les autres, au milieu du troupeau pour... j'allais dire que notre cœur batte à l'unisson de celui de nos coéquipiers. Voilà. Est-ce que nous sommes dans une équipe ou est-ce que c'est juste une juxtaposition d'ego pour que chacun développe un peu un agenda personnel, une idéologie ou bien finalement une boutique à gérer? Est-ce que nos églises doivent être des boutiques à gérer avec des modèles économiques qui s'effondrent, ou est-ce que réellement on doit être tendu vers un objectif qui est le salut pour nous et pour nos frères? Voilà. Donc il est important, un peu comme quand le jeu s'agite, ça je l'ai plusieurs fois dit à l'écoute, à l'antenne de Radio Maria, c'est une expression un peu d'entraîneur, quand le jeu s'agite, de revenir à des fondamentaux, de ralentir, de revenir à des fondamentaux. On a vu pendant la Coupe du Monde, parfois il y a du hurrah football, comme on dit, le ballon part à droite, à gauche, et on a besoin de ralentir le jeu et puis de dire, ok, quelle est notre stratégie? Où allons-nous? Chacun se fait des passes, donc on retrouve une forme de circulation apaisée, et puis on va repartir. Voilà, je voulais vraiment partager avec vous cette importance de la confiance, et puis de l'exemplarité. Je parlais là récemment avec des amis sur face à cet effondrement dans l'Église, qu'est-ce qui fait que cette foi qui est un don de Dieu, mais qui se reçoit aussi dans un écrin, le premier lieu de transmission de la foi, c'est la famille, qu'est-ce qui fait que cette foi se diffuse de génération en génération? Et en interrogeant de façon ouverte les personnes autour de moi, beaucoup de personnes disaient, ça passe aussi par l'exemplarité des parents. Est-ce que les parents sont exemplaires? Est-ce qu'ils vivent ce qu'ils prêchent? Il y a une belle expression anglaise qui dit « walk the talk », c'est-à-dire « parle ton marche ton discours ». Est-ce que mon discours, je le vis? Est-ce que ma foi est en acte? Ou est-ce que c'est juste des belles paroles un peu désincarnées? Le navigateur que j'aime beaucoup, Olivier de Kersauzon, qui est aussi un écrivain et un essayiste et à succès, disait « L'exemplarité est le plus beau des héritages. » L'exemplarité est le plus beau des héritages. Mon patrimoine, finalement, qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Est-ce que je laisserai une belle maison? Est-ce que je laisserai un plan d'épargne? Et donc, ce qui peut être aussi des soucis, ou est-ce que ça sera juste de l'exemplarité, de la cohérence de vie? Moi, je pense souvent à mes grands-parents, finalement, que je voyais à genoux, disant le chapelet, et de façon fidèle et régulière. Et c'est ça que je retiendrai, finalement, de mon héritage et de mon ascendance. Est-ce que nos enfants nous voient prier? Est-ce que les paroissiens voient leurs prêtres réellement prier? Pas célébrer la messe derrière l'autel, un peu en majesté, mais est-ce que les paroissiens voient le prêtre prier? Est-ce que les paroissiens voient une communauté de prêtres aimantes et unies? Et s'ils voient cela, ils voient une foi en acte, ils voient une forme de cohérence, et cela diffusera non seulement de la sécurité affective, relationnelle, mais ça donnera aussi un vrai souffle. Aujourd'hui, dans l'épopée que vit l'équipe de France, il voit un staff qui est uni. Uni parce qu'il n'est pas centré sur son ego, mais ils sont centrés sur cet objectif. Cet objectif qui est la victoire, non pas pour eux-mêmes, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour apporter peut-être de l'espérance, de la joie et de l'unité au peuple français qui vibre avec procuration dans cette épopée footballistique. Voilà, donc une équipe, c'est cet ensemble d'individus qui, à un moment donné, va oublier son petit ego. On va fonctionner avec les égos, mais à un moment donné, il y a une part de cet ego qui va un peu se mettre au service d'un collectif. On va se laisser habiter par l'autre. On retrouve une forme de culture, de la rencontre, de l'inconfort aussi, pour servir un bien supérieur. Et tout ça reposant sur des convictions, sur des convictions de jeu, sur des convictions d'être, une joie qui se diffuse, une joie dans le don, de transpirer, de tout donner sur un terrain. Et est-ce que nos enfants nous voient joyeux dans notre travail ou est-ce qu'au contraire, ils nous voient rétractés et subissant, subissant une situation, une vie qui est difficile. Et je le dis d'autant plus qu'en ce moment, il y a des malades dans les familles, il y en a qui ont un moral un peu fragilisé. Donc c'est aussi des questions qu'on doit se poser. Et puis il y a des petites armes hein, dans nos vies individuelles pour servir le collectif, qui sont évidemment ces petits moments de retrait, ces petits moments de prière, ces examens de conscience où le soir on se dit « qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Seigneur, aide-moi à faire la même chose demain, non pas pour mon ego, pour mon nombril, mais pour le collectif. Et puis qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et donc je rends grâce pour ce que j'ai fait de bien. Et puis qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Quels sont mes actes manqués ? Quels sont mes passes manquées finalement ? Ces moments de communion que je n'ai pas voulu concrétiser. Et qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, demain pour les réparer ? Pour recréer du lien, pour recréer de la communion là où j'ai été soit un artisan de discorde ou bien un joueur d'ego. Voilà, c'est aussi ce petit travail d'examen de conscience, ce petit travail d'analyse personnelle, où je m'oublie pour l'autre, où j'analyse la situation toujours fixer. Le regard fixé aussi vers cet objectif commun, cet objectif que nous voulons pour la communauté, c'est qu'elle soit meilleure et qu'elle progresse pour la sainteté. Je voulais quand même vous partager, avant une deuxième pause musicale ludique et joyeuse, une petite anecdote qui m'avait beaucoup marqué à propos d'esprit d'équipe, de conviction. Et ça rebondit un peu avec une certaine ironie sur l'histoire que nous vivons actuellement avec l'Ukraine. C'était en 1942, figurez-vous, qu'une équipe de football qui s'appelait le FC Start comme commencer, comme le début, le lancement, cette équipe de football devait affronter une sélection des meilleurs joueurs du Reich nazi. Et c'était un match piégé, un match piège. Il y a un journaliste sportif qui s'appelle Pierre-Louis Basque, qu'on a beaucoup écouté sur Europe 1, qui a écrit un livre qui s'appelle « Gagner à en mourir » et il relate cet épisode. Et cette équipe du FC Start, c'était des joueurs un peu fous, insouciants, des dribbleurs. Et ils avaient été convoqués pour faire ce match et ils ont voulu jouer jusqu'au bout. Ils savaient que le match pouvait être arrangé. Il y avait des dignitaires nazis qui assistaient à ce match et ils ont refusé de lever le pied. Ils ont refusé la compromission. Ils savaient dès le début que s'ils battaient cette équipe nazie, cette victoire les conduirait à la mort. Et ils ont choisi de jouer et ils ont choisi de gagner. Ils ont choisi d'aller jusqu'au bout et de choisir entre la ferveur et la peur, même s'ils ont dû avoir peur. Certains joueurs, à l'issue du match, furent exécutés, jetés dans un ravin ou achevés d'une balle dans la nuque. Le gardien de but, qui s'appelait Trusevich, il refusa de se mettre à genoux. Et comme les Slaves qui chantent la résurrection debout, vous savez, les orthodoxes sont debout pour la résurrection, debout pendant les offices, pour célébrer l'Orient, le soleil levant, et célébrer la résurrection. Eh bien, il a été debout pour affronter la mort et pour accepter une nouvelle vie. Donc, c'est très intéressant. Et les joueurs, l'équipe, avaient eu cette liberté de dire « qu'est-ce qu'on fera ? Est-ce qu'on va rentrer dans une logique de compromission ou est-ce qu'on va rentrer dans quelque chose de plus grand qui nous dépasse ?» Alors oui, il y a la peur, mais finalement... pensant aussi certainement à l'au-delà, ils ont préféré la mort terrestre qu'une forme de souillure. Et sur cette belle anecdote de cette équipe qui a accepté la mort, c'est une sorte de martyr footballistique, mais on sait que derrière, il y avait des convictions évidemment religieuses très fortes. On a des héros qui ont choisi de donner leur vie pour une cause plus forte. C'est aussi le sanctuaire de la conscience. Et puis, c'est aussi un témoignage de vie face à la rétractation et à la compromission de la mort. Donc cet épisode est assez intéressant et ça nous fait évidemment penser à tous les martyrs chrétiens qui encore aujourd'hui, donnent leur vie pour le Christ, refuser politiquement de se compromettre pour accepter un confort, pour accepter finalement une paix, mais qui ne durera pas. Dans ces communautés, dans ces équipes, on célèbre la liesse, la joie, surtout la joie de la victoire, mais il faut aussi avoir une pensée à ces moments de difficulté. Charles Péguy évoquait ces heureux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. Et c'est une très belle phrase, heureux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. Les moments de joie, de liesse, on va tout à l'heure écouter ce chant de liesse hein, qui rassemble aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France, en rebond aux joueurs de l'équipe de France de rugby, Freed from Desire. Eh bien, parfois, il y a des moments de silence, des moments de silence où on écoute l'autre, des moments de silence absolu où on se tait, on regarde, on renifle, on observe, on communie. On se sent aussi souffrant, tout petit. Et il est important, je pense, dans une communauté, parfois, de décélérer, de prendre beaucoup plus de recul, de partir en silence, de remettre beaucoup de choses à plat. Et un jour, le capitaine de l'équipe de France de handball, Nicolas Karabatic, avait dit on ne peut pas s'aimer parce qu'on gagne. On doit s'aimer surtout dans la défaite. Et en même temps, souvent, c'est vrai que c'est là qu'on verra que quelque chose est aussi factice. C'est qu'il est très facile de dire nous sommes les meilleurs amis du monde quand on a fait quelque chose de grand, de fort. Mais repensons au moment d'aridité, au moment de difficulté dans la défaite, quand c'est sombre. Quand on est seul, c'est peut-être là aussi qu'on voit les vrais amis dans la souffrance. Et en disant ça, je pense à moi-même, à des moments ou à des moments difficiles. C'est vrai que quand on est engagé dans une aventure qui traverse une période plus sombre, plus aride, et ben on peut avoir la tentation lâche de dire bah je suis pas là, de mettre un pas de côté pour éviter d'affronter ce qu'il y a de plus dur, de plus rude. De plus engageant. Pensons à tout ça et repensons à ce ciment de la confiance qui est comme une sève qui va irriguer le corps vivant et qui va le coller pour en faire une réalité finalement compacte et résistante. Le sociologue Thomas Friedman disait que la confiance est comme un produit dopant légal. On sait que quand on a confiance en l'autre, quand on diffuse cette confiance, eh bien, on va permettre à notre frère de se dépasser, de faire des choses que spontanément, naturellement, biologiquement, peut-être il n'arriverait pas à faire. Et je crois que il est important de vivre en acte cette confiance qui permet de faire de grandes et belles choses, et puis de se poser régulièrement cette question, est-ce que je reçois la confiance, et est-ce que je la diffuse, et est-ce que je la donne? Est-ce que je suis un réservoir de confiance pour les proches qui sont autour de moi? Pour mon épouse, est-ce que je la sécurise? Est-ce que je lui donne cette confiance dans l'avenir? Pour mes enfants, est-ce que je les bénis, je les envoie? Est-ce que je leur donne des paroles de bénédiction? Et puis pour mes collaborateurs? La confiance, elle se proclame pas, hein. Elle se reçoit, elle se donne toujours dans la liberté des consciences, mais elle se matérialise par des actes forts et concrets. On va faire une petite pause et on va écouter une musique qui va être un peu revigorante, mais c'est une musique que je l'espère, chers amis de Radio Maria, vous allez encore écouter longuement dans les semaines à venir, parce que c'est un peu devenu l'hymne de la jubilation de l'équipe de France du football, qui s'appelle Freed from Desire. Et quand on écoute les paroles, finalement, la chanteuse dit mon mari n'a pas besoin d'argent, mon mari n'a pas de pouvoir, il cherche uniquement l'amour, la confiance. Et c'est surtout d'amour et de liberté dont les hommes ont besoin. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'argent qui nous a servi, mais ce dont ont soif les gens, c'est l'amour qui console, l'amour qui encourage, l'amour qui donne confiance, et puis c'est la liberté. Et nous, cette liberté, vous savez, elle nous vient de Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu sauf la contrainte. C'est-à-dire que le chrétien sera toujours un homme libre, sera toujours un homme libre de choisir entre le bien ou le mal. Et le premier saint, c'était Dismas, il était à côté de Jésus sur la croix, c'était le bon larron, et il a dit « quand tu seras dans ton royaume ». Donc dans la profession de foi de Dismas, il a reconnu en Jésus crucifié, défiguré, le roi, et il a surtout, en disant « quand tu seras dans ton royaume », il a cru en la résurrection et il a déjà proclamé la résurrection et il a fait un acte de foi, j'imagine, lui-même souffrant. Et donc pensons à cet acte, à cette liberté qui nous vient du Christ, à cet amour qui est, et à ce besoin d'amour et de liberté qui est dans notre cœur. Et puis voilà, comme saint Paul nous le demandait, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Et puis aimons ce monde, même si on a du mal à comprendre ce monde, mais pour lui annoncer le Christ, il faut l'aimer. Et donc, vibrons avec tous ces supporters et tous ces joueurs, comme les joueurs de l'équipe de France ont vibré hier dans le vestiaire pour célébrer leur victoire. Écoutons la chanteuse Gala.
Merci Arnaud, et chers auditeurs et auditrices, pendant cette pause musicale, n'hésitez pas à intervenir au 04 94 209 109 ou par SMS au 07 83 89 13 75. À tout de suite.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire.
No.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, il est 9h52 et nous allons retrouver Arnaud Boutéon pour la suite et la fin de son émission. Et Arnaud, nous avons reçu un appel d'une auditrice qui souhaiterait rester anonyme. Donc Arnaud, je vous laisse y aller avec l'auditrice.
Bonjour chère auditrice anonyme. Allô, allô.
Merci beaucoup pour votre mission ce matin, que vous avez parlé vraiment des thèmes vraiment merveilleuses. Il y en a pas mal de choses qui m'ont touchée, effectivement, par rapport aux prêtres, les évêques, enfin, c'est vraiment formidable. Vous avez englobé vraiment des points vraiment très, très importants dans la confiance. Et effectivement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, la confiance. Et moi, j'ai une question personnelle par rapport à le thème, la confiance. Une question personnelle. Donc, justement, je suis dans une étape un peu compliquée dans la confiance par rapport à une personne qui m'est très proche et donc qui a des gros soucis d'addict. Et donc, il y a des gros soucis aussi, comme beaucoup des personnes actuelles, hein, qui a beaucoup de problèmes de finances, de problèmes de fin de mois, enfin bref, donc ils n'arrivent pas du tout, il y en a énormément, même beaucoup. Et justement, ces personnes, j'ai justement, par rapport à son problème, je peux l'aider, mais je me dis si je vais l'aider pour justement financièrement, cet argent, est-ce que je vais pas l'encourager dans son problème? Et là, ça me pèse énormément parce que c'est quand même important pour moi, cette personne. Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est vraiment, ça me tiraille quotidiennement. Et je vois, on sent bien qu'il attend après moi parce que les problèmes sont en train d'augmenter de plus en plus, que moi je peux l'aider. Mais justement, je me dis, si je l'aide, est-ce que je peux lui faire confiance qu'il va pas s'en servir après? Je sais, voilà. Et voilà, j'ai énormément de questions aussi, de questions par rapport aux prêtres aussi. Vous parlez des prêtres, la confiance des prêtres, qui nous devons nous sentir à l'aise, recueilli, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vous dis franchement, moi, ça m'arrive d'avoir peur d'aller vers des prêtres, même pour me confesser.
Voilà. Merci, merci beaucoup.
Il y a bien d'autres trucs encore, demander à un prêtre de prier pour moi, demander à un prêtre d'aller vers lui pour peut-être demander un conseil. J'ai peur de me faire envoyer balader, et ce qui est déjà arrivé, et aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais pas vers tous les prêtres j'ai peur, voilà. Pas tous, hein, attention, hein, pas tous. Mais c'est dommage. Et c'est tout ce problème qui me pèse énormément quotidiennement par rapport à l'aide que je peux apporter à une personne qui en a vraiment, vraiment besoin. Mais je freine par rapport à son problème personnel.
Merci. Je comprends parfaitement ce que vous dites, et ce sont des situations face auxquelles on est tous confrontés. Hein, donc vous n'êtes pas seul à vivre ça, sachez-le. Et sur la première question, j'ai tendance à rebondir un peu sur la parabole des talents, où le bon maître, quand il donne un talent, il faut que le serviteur bon et fidèle le fasse fructifier. Et donc, je pense qu'il faut peut-être dire les choses. Et le pape François parle de la parésia. Et c'est un élément aussi de réponse par rapport à votre deuxième sujet sur la confiance vis-à-vis des prêtres. C'est que nous ayons ce courage de dire les choses, les yeux dans les yeux. Et vous savez, en psychologie, on parle de communication non-violente. Et il y a plusieurs... Je vous invite à aller regarder comment fonctionne la communication non-violente. Et dans un premier temps, il faut exprimer les faits. Il faut exprimer un ressenti et puis il faut aussi partager une demande et de dire à quel point j'entends ton aide, je vais te donner quelque chose, mais le besoin, l'attente, c'est d'abord je te donnerai petit et puis il faut que tu prouves que tu es capable de recevoir et de faire fructifier cette aide. Sinon, c'est une forme d'assistanat. Sinon, c'est de l'assistanat où quelque part, vous apaisez votre conscience, vous donnez de l'argent et puis vous partez ailleurs. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, le bien le plus cher, c'est davantage le temps que l'argent. Et peut-être que cette personne, il faudra peut-être, alors que vous deviez passer une heure avec lui, essayer de passer 2 heures avec lui, parce que c'est quelqu'un de vulnérable, de pauvre. Et vous savez, les pauvres sont nos maîtres, donc il faut les rejoindre dans leurs difficultés, lui donner peut-être ce temps. Et puis peut-être que la somme d'argent sera plus faible, mais vous le mettrez un peu entre guillemets à l'épreuve, où il doit éprouver ce qu'il a dans le ventre pour pouvoir rebondir. Ce qu'on veut, c'est que la personne sorte de son addiction et soit meilleure et qu'il pense qu'il est lui-même. Voilà. Quand un entraîneur sanctionne un joueur, il lui enlève en quelque sorte du temps de jeu pour que le joueur puisse réfléchir. C'est comme prendre ce temps un peu de silence, de retrait, en se disant pourquoi est-ce que je n'ai pas ce temps de jeu ? Pourquoi je ne suis pas sélectionné ? Et pour retrouver en lui-même peut-être les ressources pour rebondir, pour travailler et pour faire le point sur ses addictions, ses errances, etc. Donc, il faut avoir une parole forte. Il faut peut-être manifester de la confiance en donnant une petite somme. C'est peut-être symbolique dans un premier temps. Et puis, mettre un peu à l'épreuve pour voir, voilà, si tu as des addictions, eh bien, prouve-moi que tu veux t'en sortir. Alors, sur le téléphone portable, sur des sites de jeux, etc. Aujourd'hui, il y a typiquement sur les ordinateurs portables des moyens de bloquer l'accès à certains sites. Et dans ce cas-là, renseignez-vous, vous pouvez mettre un mot de passe et dans ce cas, pour pouvoir débloquer ou bloquer l'ordinateur ou le téléphone portable pour éviter cette addiction. Il y a beaucoup de prêtres, beaucoup d'hommes qui aujourd'hui le font entre eux en disant bah, « j'ai une faiblesse d'addiction pour des séries, pour des films, et pour du porno, pour des jeux d'argent. Eh bien, voilà mon téléphone, tu me mets un code de verrouillage et j'ai confiance en toi. Et puis, on fait un point dans un mois. » Et puis peut-être que dans un mois, j'aurais été sevré, j'aurais réussi à le temps passé à perdre ce temps dans ces sites, dans ces distractions, ben je l'aurais passé à faire des choses qui nourrissent davantage mon cœur d'homme. Et voilà. Mais donc il faut un mélange de fermeté, il faut dire les choses, et je crois qu'on dans l'Église on a du mal à dire les choses quand nous n'avons pas confiance en un prêtre ou bien quand on sent des mauvais conseils ou bien des gestes indélicat de la part d'une personne un peu d'autorité sur nous, et ben il faut le dire, ben je suis déçu et j'attends pas ça de vous. Voilà, pourquoi ? Pour faire grandir la personne. Donc ça requiert du courage, hein. Il faut demander à l'Esprit Saint de nous donner cette force de dire, cette force de faire, toujours tendu vers la vérité. Toujours tendu vers la vérité. Il faut jamais oublier que, en quelque sorte, on parlait d'esprit d'équipe, de communauté, bah, en quelque sorte le début de l'Église, on sait bien le coup d'envoi de l'Église, il a été donné à l'occasion de la fête de la Pentecôte. C'est à ce moment-là que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et qui étaient rassemblés et ils étaient un peu tétanisés, comme nous on peut être tétanisé quand on a des difficultés autour de nous et ils ont basculé d'une forme de rétractation honteuse vers une dilatation joyeuse et missionnaire. Il y a eu ce moment où ils ont accueilli l'Esprit Saint et toute cette équipe, ce qui est très intéressant, c'est que cette équipe est partie annoncer le Seigneur vers le monde entier et avec l'inculturation, avec ce don des langues. Et ils ne sont pas restés ensemble comme un bloc, un peu comme les tortues romaines, vous voyez, qui avancent, les tortues romaines qu'on voit dans les albums d'Astérix avec les boucliers, etc. Ils sont tous partis deux par deux. Annoncer l'évangile. Ils ne sont pas partis seuls, donc il y a eu ces équipes. Et puis, il nous faut aussi des moments de rassemblement, de joie. Alors moi, je m'occupe un peu du congrès mission. On voit ces rassemblements d'églises qui peuvent nous manquer pour reprendre des forces, ne pas nous regarder, mais écouter les bonnes pratiques les uns des autres et pour aller de l'avant. Mais en tout cas, vous serez dans mes prières et je vous dis, chère madame, soyez courageuse pour dire les choses, pour dire pourquoi est-ce que vous avez des doutes aujourd'hui sur la confiance. Parce que peut-être que vous avez cette confiance, elle a été rompue. Parce que, mais l'expression du courage, ça veut dire aussi que vous misez sur la personne que vous voulez aider. Vous avez confiance en elle, mais quand on a confiance en elle, on n'est pas là juste pour donner un billet et partir. Vous allez dire, bah, je vais t'accompagner, mais aujourd'hui, ce que j'ai à te dire, c'est que cette confiance, elle doit être restaurée, que tu vaux mieux que ce que tu es. Mais aujourd'hui, tu n'es pas ton péché. Peut-être que la personne aussi qui est à genoux, qui n'est pas bien, elle a l'impression qu'elle se réduit à son péché, à son vice, à son addiction. Il faut le dire, tu vaux mieux que ça, et je t'accompagnerai tout doucement, mais je te fais confiance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Didier Deschamps vis-à-vis de ses joueurs ? Il va pas les prendre par la main non plus. Il va leur dire, voilà, tu as un protocole d'entraînement, suis ce protocole, mais c'est toi qui vas le faire. Avec ta liberté, avec ta volonté, avec l'aide de tes coéquipiers, mais je ne serai pas là pour te le dire. Tu es un adulte, tu n'es plus un enfant, un adolescent, tu ne vas pas vivre sous perfusion. Tu vas le faire et tu reviendras vers moi quand tu l'auras fait. Et là, je verrai un homme nouveau. Et je crois que c'est très important d'avoir ces paroles fortes avec de la parésia et pour bénir, pour envoyer, et puis ensuite pour accueillir à nouveau quand la personne a eu a compris. Qu'elle devait sortir de son isolement, de son addiction. Et puis peut-être essayer de passer plus de temps avec elle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas d'argent dont on a besoin, mais c'est plus de temps. Et alors effectivement, c'est difficile. Voilà ce que je peux vous dire. Je dois terminer cette émission et je voulais vraiment la terminer en vous partageant quelques mots du pape Benoît XVI. Un jour, il y a 10 ans, il était à une audience, et puis il est avec des cardinaux, et puis il leur a dit à ses frères cardinaux, un peu comme dans un vestiaire sportif, il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, vous savez, saint Augustin a dit que toute l'histoire est un combat entre deux amours. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi dans le martyr. Nous sommes pris dans ce combat. Et dans ce combat, il est très important d'avoir des amis. Merci à vous tous pour la communion des joies et des douleurs. Allons de l'avant, le Seigneur l'a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante. Merci à vous tous. Le Seigneur vous bénisse tous. Levons nos verres. Et voilà, c'est ainsi que s'est achevé. On imagine bonne pinte de bière. Voilà, c'est ainsi que s'est achevé ce petit échange entre le pape Benoît XVI et ses frères cardinaux. Il a nommé la difficulté. Il a dit, nous sommes dans un combat. Et dans un combat, s'il est difficile, on est englué dans ce combat. Il est important d'avoir des amis, on pourrait dire des frères, des coéquipiers. Il les remercie, merci pour cette communion des joies et des douleurs. Et on partage nos joies, on porte nos douleurs. Allons de l'avant, on n'est pas là pour rester statique. Allons de l'avant, le Seigneur l'a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Éprouvons notre foi. Où est-ce que nous voulons mobiliser nos ressources, notre énergie, nos talents ? Et il dit, nous sommes dans l'équipe du Seigneur, nous sommes dans l'équipe des baptisés. Et cette équipe, elle doit s'ouvrir. Cette équipe, elle est ouverte. Les portes sont ouvertes. Ce n'est pas un cercle clos. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante parce que le Seigneur est ressuscité. Parce que la vie, elle nous traverse tous les jours. Cette vie, elle est abondante. Et il les remercie enfin. Merci à vous tous. Le Seigneur vous bénisse tous. Il termine par cette bénédiction de pasteur, cette bénédiction qui lui vient de Dieu. Et il dit, levons nos verres. Donc c'est un moment de célébration, c'est un moment de joie et puis un moment d'incarnation aussi. C'est comme une causerie d'un banquet d'avant-match ou d'après-match qui nous offre aussi un avant-goût de la joie céleste. Voilà, voilà la fin de cette émission. On se retrouve l'année prochaine, déjà l'année prochaine. J'espère que d'ici là, la France aura gagné la Coupe du Monde de rugby, de foot. Et on sera avant le tournoi des Six Nations. Venez Divin Messie, parce que nous sommes dans cette période aussi préparatoire à la venue du Christ, Christ vulnérable, donné, exposé dans l'intimité de la crèche. Et puis, soyons comme ces bergers, on avance, on vient d'ici et là. Soyons aussi comme ces rois mages qui viendront avec leur talent, avec leur trésor. Quels sont nos trésors ? Nous arrivons en offertoire vers le Tout-Puissant qui est petit dans une mangeoire. Et voilà, soyons épaule contre épaule dans cette joie de la naissance du Christ. Avançons dans l'obscurité.